que les professeurs, chers amis, chers étudiants, chers amis qui viennent ce soir à cette conférence. Le sujet de ma conférence s'intitule « La tradition vivante et combattante ». Donc j'allie la vie de la tradition avec le combat de cette tradition pour vous montrer qu'il n'y a pas de vie sans combat, spécialement dans la tradition, c'est-à-dire dans la foi catholique. Vous savez qu'en 1988, il y a 10 ans, c'est l'anniversaire que nous fêtions, hélas, avec quand même tristesse, le pape Jean-Paul II nous déclarait schismatique, enfin moi personnellement, parce que Mgr Lefebvre m'avait sacré évêque sans sa permission. Je ne reviendrai pas sur ce problème, mais je vous prie de noter bien que dans le motu proprio, Ecclesia Dei, Adflicta, le pape disait que ce schisme avait pour racine, et ça qui est important, une notion inexacte et incomplète de la tradition. Par conséquent, si nous pouvons montrer que nous avons au contraire une notion bien exacte, la tradition, il est clair qu'il n'y a pas de schisme. Donc je vais m'attaquer à cette démonstration, que nous avons une correcte idée de la tradition, et qu'au contraire, ce sont ceux qu'on appelle les conciliaires, ceux qui font confiance aveugle au concile, qui ont une fausse notion évolutive de la tradition. Voilà l'introduction. Par conséquent, la vraie notion de la tradition, ce sera la première partie de mon petit exposé, ensuite nous verrons la fausse notion moderniste de la tradition. La vraie notion de la tradition, c'est tout simplement que la tradition est immuable et pourtant source de vie. Elle est immuable, c'est-à-dire qu'elle ne change pas, et pourtant elle est source de vie, c'est-à-dire que nous en vivons. La tradition, vous le savez, est essentiellement immuable, inchangeable, et ça n'empêche pas pour nous d'être vivante. Pour vous montrer qu'elle est immuable, ce qui tombe sous le sens, ça paraît une évidence, mais actuellement non, puisque tout doit changer. Pour vous montrer qu'elle est immuable, je prendrai simplement le titre d'un ouvrage du cardinal Billot, qui vivait au temps de Saint-Pédis, de Benoît XV et de Pie XI, et qui a expliqué cette doctrine dans son ouvrage « De immutabilitate traditionis », de l'immutabilité de la tradition, contre la moderne erreur de l'évolutionnisme. C'était le titre de son ouvrage. Cardinal Billot écrivit cet ouvrage en 1929, du moins il fut publié à cette date-là, sous Pie XI. De l'immutabilité de la sainte tradition. Donc, vous voyez, ce n'est pas une invention de ma part, c'est la doctrine la plus antique de l'Église, la plus classique de l'Église. La tradition, c'est ce qui ne change pas. En effet, traditio, en latin, vient du verbe tradere, qui veut dire transmettre. Dès lors, si l'on transmet, on transmet un dépôt qu'on ne change pas. S'il y a, au cours de la transmission, il y a un changement, eh bien, il n'y a plus transmission, il y a trahison. Traditio veut dire transmission. S'il y a trahison, il y a falsification du dépôt transmis. Donc, tout notre tâche de catholique, et personnellement moi-même d'évêque catholique, c'est de transmettre ce dépôt qui n'est pas un simple défaut folklorique, vous comprenez bien, car si c'est déjà vrai pour les folklores, c'est encore plus vrai pour le dépôt de la foi. Il s'agit de transmettre non pas un dépôt humain, mais un dépôt divin, le dépôt de ce qu'on appelle la révélation divine. Ce dépôt est réellement quelque chose de constitué en lui-même. En effet, l'Église nous enseigne qu'avec la mort du dernier des apôtres, Saint Jean, le dépôt de la révélation est clos. C'est-à-dire qu'on ne peut plus y ajouter. la révélation publique. Il y aura certes des révélations privées, comme à Lourdes, etc., ou à Fatima, mais la révélation publique est close, personne ne veut plus y ajouter quoi que ce soit. Et c'est justement ce que condamnait Saint Pidis, la prétention de ceux qui, les modernistes, voulaient ajouter ou compléter le dépôt révélé. Vous trouvez cette proposition condamnée dans le décret Lamentabili de Saint Pidis en 1907, condamnant la proposition suivante: la révélation, objet de la foi catholique, n'a pas été complète avec les apôtres. Ah. Proposition condamnée parce qu'elle veut dire qu'il y aurait eu d'autres révélations qui auraient ajouté à la révélation faite et complète pour les apôtres. De même que Saint Jean dans l'Apocalypse, c'est très intéressant parce que c'est pratiquement la dernière phrase du Nouveau Testament, dans toute la Bible. C'est très solennel. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans l'Apocalypse au chapitre 22, verset 18-19? C'est pratiquement la fin de la Bible. « Je déclare, dit Saint Jean, je déclare que à quiconque entend les paroles de cette prophétie, l'Apocalypse, que si quelqu'un y ajoute, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et que si quelqu'un retranche des paroles de ce livre prophétique, Dieu lui retranchera sa part de l'arbre de vie et de la cité sainte qui sont décrits dans ce livre. » Autrement dit, il n'ira pas au paradis, il n'aura pas place au ciel. Celui qui voudrait ajouter ou qui voudrait retrancher à la révélation faite aux apôtres. Voilà les paroles solennelles par lesquelles Saint Jean nous enseigne justement l'immutabilité de la tradition. Et c'est pourquoi le Concile Vatican I, il y a maintenant plus d'un siècle, c'était en 1870, dans son décret dogmatique Pastor Eternus, dit ceci. C'est le décret qui concernait la définition de l'infaillibilité pontificale. Le pape dit ceci: l'Esprit Saint n'a pas été promis à Pierre et à ses successeurs afin que par sa révélation il mette à jour une doctrine nouvelle, mais pour que par son assistance, il conserve saintement et expose fidèlement la révélation transmise par les apôtres, c'est-à-dire le dépôt de la foi. Ce texte est infaillible, c'est une définition solennelle. Le dépôt de la foi, c'est précieux, on a cette expression « dépôt de la foi » et on nous explique le rôle du Saint-Esprit dans l'Église, auprès du pape comme auprès des évêques, n'est-ce pas, qui n'est pas de révéler une chose nouvelle, une doctrine nouvelle, mais d'assister le pape ou les évêques pour transmettre fidèlement, pour garder saintement, comme il dit, garder saintement, et transmettre fidèlement ce dépôt. Vous voyez ici clairement la notion de fidélité, d'immutabilité intrinsèque, et en même temps la notion de transmission sans altération. Et pour cela, le Saint-Esprit nous aide l'Église enseignante, aide le pape et les évêques. Donc ceci, vous voyez, c'est tout à fait contraire à la doctrine des modernistes qui voudraient pouvoir ajouter des éléments à chaque époque au dépôt révélé. Cette doctrine erronée que condamnait avant Saint Pidis, déjà avant Pidis, le pape Pie IX, qui, vous le savez, est vénérable et dont le procès de canonisation, malheureusement, est arrêté. Le pape Pie IX, dans son encyclique « Qui pluribus » en 1846, il y a bien longtemps, plus de 150 ans, avait condamné l'erreur progressiste, on peut dire, le progressiste du temps de Pie IX, qui disait ceci, je vais citer plutôt la proposition, ce que dit Pie IX: ce n'est pas une moindre tromperie que ces ennemis de la divine révélation, louant hautement le progrès humain, vous voyez, ils encensent le progrès humain, veuillent l'introduire avec une audace téméraire et sacrilège dans la religion catholique. Donc introduire le progrès humain dans la religion catholique. Non pas seulement dans la liturgie, ce que nous avons subi depuis la nouvelle messe, si vous voulez, mais également dans la foi, dans le dépôt de la foi. Ils disent que ce n'est pas une moindre tromperie. Ceux qui veulent introduire le progrès humain dans la religion catholique, c'est une erreur. Et il explique, très bien pourquoi, comme si la religion elle-même n'était pas œuvre de Dieu, mais des hommes. Et qu'elle fut une invention philosophique qu'il fut permis de perfectionner de manière humaine. Donc la religion catholique, on pourrait la perfectionner de manière humaine. Et introduire ça, des améliorations. Vous voyez. Eh bien, Pie IX condamne cette erreur progressiste. On ne constate pas, dit-il, dans la religion catholique, un tel progrès à la manière du progrès des sciences. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un dépôt sacré clos. On n'a plus qu'à transmettre. La philosophie progresse, les sciences progressent, la religion ne progresse pas. Elle n'est pas une invention humaine, elle n'est pas une découverte humaine. La religion est révélée par Dieu. Elle est complète avec la mort du dernier des apôtres. Et donc celui qui veut introduire dans la religion, c'est-à-dire dans la doctrine, ou dans l'ascèse, ou dans les principes de la liturgie, etc., un progrès humain, celui-là a une entreprise inadmissible. Tenons donc fermement à l'immutabilité essentielle de la tradition divine. C'est un dépôt sacré à transmettre fidèlement. C'est tout. Il faut le transmettre sans changement, à la génération suivante, et ceci jusqu'à la fin du monde, et ceci envers et contre toutes les hérésies, qui sont ces altérations qui voudraient profaner ce dépôt. Donc ici, je vous ai montré, du moins j'ai essayé, l'immutabilité intrinsèque de la tradition catholique. Elle est immuable, elle ne change pas. Et pourtant, vous vous souvenez, je vous ai dit, elle est vivante. Elle est vivante. Elle est vivante parce que nous en vivons, tout simplement. Elle est vivante parce que chacun en vit. La tradition, ce dépôt révélé, nous en vivons. Pourquoi ? Ce n'est pas seulement les dogmes. La tradition, c'est la vie intime de Dieu. Le dogme, qu'est-ce que c'est ? C'est la vie intime de Dieu qui nous est révélée. Que nous a révélé notre Seigneur ? C'est la vie intime divine, la Sainte Trinité, c'est ce qui s'ensuit. Donc, quand on parle de la tradition, on parle de la vie intime de Dieu qui nous est communiquée par la grâce et dont la foi nous parle. Et c'est de cela qu'il s'agit quand nous parlons de la tradition. La tradition, c'est cette vie chrétienne qui se transmet de génération en génération, que les parents chrétiens n'ont rien de plus cher que de transmettre à leurs enfants. Cette vie chrétienne, c'est une vie, ce n'est pas seulement une doctrine, c'est une doctrine mise en pratique. C'est donc une participation à la vie divine. Saint Pierre le dit, « Divine consortes naturae », nous sommes participants de la vie divine. C'est ça la tradition. Alors qu'est-ce que c'est que la vie divine ? Il n'y a rien de plus immuable que la vie divine. Et pourtant, il n'y a rien de plus actif, de plus vivant que le bon Dieu. Saint Thomas nous dit, c'est la conclusion pratiquement des premières questions de la Somme, Dieu est le summe vivens, est le suprême vivant. Et pourtant, il est le suprême immuable. Et par conséquent, si nous vivons de la vie divine, eh bien nous devons un petit peu imiter les bienheureux du ciel qui sont dans un état d'immutabilité magnifique et en même temps de suprême vie. Et ça paraît contradictoire, et pourtant c'est comme cela. La jubilation des bienheureux du ciel, c'est d'être fixé dans l'immuable. Et pourtant c'est une vie suprême, une activité suprême. Voyez, c'est là où coïncident au sommet l'immutabilité et la vie. C'est pour vous dire que la vie n'est pas seulement, n'est pas uniquement dans le changement, elle n'est pas essentiellement dans le changement. Et voyez l'erreur des progressistes qui veulent que ça change, il faut que ça change sans cesse, sinon c'est mort, disent-ils. Il faut que ça change. Il faut qu'il y ait du mouvement, sinon c'est mort. C'est une erreur. Puisqu'il suffit de voir les saints, les plus grands saints, Saint Curé d'Ars, pas loin d'ici. Si vous allez voir Ars, la statue de Cabuchet, vous voyez le curé d'Ars fixé, les yeux fixés au ciel, immué, immuable, immobile en Dieu, dans sa contemplation. Il vit. Il n'a pas besoin de changer, il n'a pas besoin de se mouvoir. Les yeux fixés sur Dieu. Et ça suffit à ces saints et à ces bienheureux. Ça nourrit toute leur vie. La tradition, c'est ça. C'est la participation à la vie divine. Et par conséquent, cette tradition est immuable. Et pourtant, elle est vivante. Elle n'a pas besoin de changer. Bien. Alors, vous me dites, oui, vous êtes immobiliste. Ça y est, c'est bien ce que nous disions. Vous êtes fixé. C'est du fixisme. Hein, bien. Vous êtes un fossile vivant. On nous dit ça. C'est pas vrai. Nous vivons. Un fossile est mort, bien sûr, nous le savons bien. Nous vivons. Et même, je dirais, la tradition subit un certain progrès dans chacun des fidèles et même dans l'Église. Ce n'est pas contradictoire de dire que la tradition est immuable et pourtant qu'elle subit un certain progrès. Nous allons voir. Et d'abord, je vais voir le progrès en chacun d'entre nous au cours de notre vie sur la terre et puis le progrès dans l'Église. La tradition, bien qu'elle soit immuable, est vivante parce que nous en vivons, et nous en vivons avec un certain progrès. Au cours de l'existence de chrétiens, la foi subit un certain progrès, c'est une évidence. Il y a un progrès dans l'objet même de la foi, dans la connaissance de l'objet de la foi. Les enfants du catéchisme découvrent peu à peu les vérités de foi. Bon, je n'ai pas besoin de développer cela, nous sommes bien d'accord. Ensuite, il y a un progrès aussi au cours de la vie dans l'intensité de la foi. C'est différent, ce n'est pas la quantité d'articles de foi que nous découvrons, mais c'est c'est l'enracinement plus profond dans la certitude. Une foi plus certaine, plus solide, plus inébranlable. On parlera des racines de la foi. Donc il y a un progrès, certainement, au fur et à mesure que nous devenions plus parfaits, plus amis de Dieu, dans l'intensité de notre foi. Également, il y a un progrès, toujours dans l'individu, dans la puissance de la foi, la capacité de la foi d'animer notre vie. Le pouvoir de la foi, lorsque le chrétien soumet toute sa vie à la règle de la foi, et même veut soumettre toute la vie publique, la vie civile, la vie politique, sous la règle de la foi. On voit bien qu'il y a ici une capacité, une puissance dans la foi, un progrès par conséquent dans la foi. Un état chrétien représente un progrès par rapport à un état laïque, c'est clair. Et enfin, il y a un progrès dans les fruits de la foi, c'est-à-dire la fécondité de la tradition. Quand les œuvres de la foi suivent la foi elle-même. Donc c'est clair, dans l'individu, hein, comme dans la cité, la foi subit un progrès. Mais vous voyez, il n'y a pas d'évolution à proprement parler. On ne parle pas d'évolution. Parlons maintenant du progrès de la révélation ou de la tradition dans l'Église globalement considérée. Dans l'Église globalement considérée. L'Église considérée comme un tout ne connaît pas de progrès dans sa tradition. Donc je l'affirme, je vais vous le démontrer. Ça va vous choquer parce que nous sommes tellement imbus d'idées de progrès que nous pensons quand même qu'au XXe siècle, il y a quand même un certain progrès dans la foi par rapport au premier siècle. Vous êtes bien d'accord? Je vais vous montrer que c'est le contraire presque. L'Église, considérée globalement, ne subit pas de progrès dans la tradition. En effet, on ne constate pas un tel progrès au cours des siècles, ni dans les sources de la vie spirituelle, ni dans l'état de sainteté des plus saints parmi les chrétiens, les catholiques, ni même dans le nombre des saints. On ne constate pas un tel progrès de la vie, de la vitalité de la tradition. C'est une constatation qui nous choque, parce que nous ne comprenons pas. Nous disons, mais alors, il n'y a pas de progrès? Et on s'attendrait instinctivement à avoir un progrès. Considérons les sources de la sainteté, qui sont les sources de la vie de la tradition. Les sources de cette vie de la tradition, ces sources n'augmentent pas, elles ne changent pas, elles sont immuables. Ces sources, ce sont les sept fontaines de vie instituées par son divin fondateur, notre Seigneur Jésus-Christ. Les sept sacrements, les sept dons du Saint-Esprit également, si vous voulez, les vertus théologales et cardinales. Les sources de vie ne changent pas. Notre Seigneur est la plénitude de la vie divine. De plenitudineius omnes nos charchepimus. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Cette plénitude ne change pas. Il n'y a pas non plus de progrès dans le type de la sainteté parmi les saints. Est-ce qu'on peut dire qu'au XXe siècle, les saints sont... C'est un peu amélioré par rapport aux saints du premier siècle. Eh bien non, saint François de Sales dit non, ce sont simplement des dispositions différentes, des mêmes fleurs, du même bouquet. Voilà un bouquet, bon, là-bas, voyez. Alors les dames qui sont très artistes, évidemment, vont le disposer d'une façon différente. C'est un arrangement différent, mais le type de la sainteté, les bases ne changent pas, ce sont les mêmes fleurs, les mêmes vertus qu'on va organiser un peu différemment. Mais le type de la sainteté ne change pas, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ qui est le divin modèle. Donc il n'y a pas à chercher, si vous voulez, un autre type de sainteté ou un autre code de sainteté que notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Ignace n'a rien inventé quand il a introduit ces exercices qui sont appelés à juste titre le code de la vie chrétienne. Mais il n'a rien inventé, il n'a fait que... simplement monnayer l'évangile disposé en 30 jours de méditation. Ça ne change pas. Et donc, par conséquent, le code de la sainteté donné par Jésus-Christ, c'est une source immuable. Ce code de la sainteté sont les 10 commandements et les 3 conseils évangéliques de pauvreté, chasteté et obéissance. Ça vaut pour tout le monde, pas seulement pour les religieux et les religieuses. Pauvreté, chasteté, obéissance, ça vaut pour tout le monde. Les conseils pour tout le monde. Ça ne change pas. Et il voyait qu'à cette lumière, cette nouvelle spiritualité récente, celle de l'Opus Dei par exemple, se révèle pas tout à fait juste. Puisque l'Opus Dei pourrait avoir pour devise, si vous connaissez un petit peu, travail, engagement, influence. Eh bien, ce n'était pas précisément l'évangile, pauvreté, chasteté, obéissance. Vous me direz, c'est une position un peu artificielle. Moi, je pense qu'elle est plus profonde que cela. Voyez. Donc, il n'y a pas de progrès dans le type de sainteté. Il n'y a pas non plus de progrès, enfin, dans le degré de sainteté. On ne peut pas dire que le XXe siècle produit de plus grands saints que les siècles précédents. Ce n'est pas vrai. En ce siècle, nous avons bien Saint Pidis, canonisé. Nous avons bien Padre Pio, qui sera, nous l'espérons, bientôt canonisé. C'est vrai. Mais ça ne démontre pas qu'il y a davantage de grands saints ou de plus grands saints qu'auparavant. Ce serait même une injure faite aux martyrs des premiers siècles et aux apôtres. Comment voulez-vous ? Non. Donc, voyez-vous, il faut nous résigner, c'est comme ça, il n'y a pas de progrès imaginaire, comme le croient ceux qu'on appelle les modernistes, dans la vie de la tradition. Il faut réfuter ces pseudo-thèses, qui ont des idées toutes faites, d'un progrès, pseudo-progrès de la vie de la tradition. Non. Chaque siècle vit la tradition comme le bon Dieu le veut, comme Dieu le veut. Donc la tradition est immuable, la tradition est vivante parce que chacun en vit autant qu'il le peut. Et néanmoins, la tradition, cette tradition vitale, vivante, vit d'une certaine manière parce qu'elle s'applique aux besoins de chaque époque. Donc c'est une autre petite considération, si vous voulez. Chacun en vit. Pourquoi ? Parce qu'elle est bien adaptée à mes nécessités. J'en vis au XXe siècle de cette tradition catholique parce qu'elle est bien adaptée aux problèmes que je rencontre aujourd'hui. Et elle me suffit. Voilà. Donc la tradition est vivante parce qu'elle s'applique vitalement aux besoins de chaque époque. C'est une chose qu'on oublie. La tradition a une admirable aptitude à s'appliquer, non pas à s'adapter, parce que le mot adapter a été galvaudé et signifie presque mutation, simplement s'appliquer. C'est pas la tradition qui s'adapte à l'époque, c'est l'époque qui va s'adapter à la tradition. La tradition est faite pour changer les époques. Donc disons que la tradition a une aptitude admirable à s'appliquer à toutes les circonstances historiques contingentes. On trouve la réponse à tous les problèmes dans la tradition catholique, la révélation, le dépôt de la foi. Le concile, je prends un exemple, je compare deux conciles, le concile de Nicée, et puis le concile de Florence, et puis le concile de Trente. Voilà. Le concile de Nicée, donc après Constantin, au IVe siècle. Le concile de Florence, c'était 1415, il me semble, si je n'ai pas d'erreur. Et puis le concile de Trente, 1570, quelque chose comme ça. Bien. Et puis le concile Vatican I, 1870. Bon, ce sont des conciles qui se sont séparés par plusieurs siècles chacun, voyez. Ils sont donc bien différents, ce sont des applications différentes, mais des mêmes principes, on ne peut pas en douter. Ils ont appliqué différemment, à des situations différentes, les mêmes principes. Nous admettons cela. Et par conséquent, on peut dire que la tradition est vivante dans la mesure où elle s'applique aux difficultés de chaque époque. Ces conciles se sont réunis pour résoudre des problèmes différents, pour lutter contre des erreurs bien distinctes, des dangers qui menaçaient les âmes à une époque donnée. Et c'est ce que nous dit, par exemple, le pape Pie IX, dans son encyclique à l'archevêque de Munich, Gravissimas Inter, en 1862. Voilà un texte qui n'est pas très connu et pourtant qui est très beau. Il dit ceci, Pie IX. En effet, l'Église, par sa divine institution, doit garder très soigneusement, intègre et inviolé le dépôt de la foi divine. Garder. Et veiller continuellement avec le plus grand soin au salut des âmes. Et rejeter et éliminer avec le plus grand soin toutes les choses qui peuvent s'opposer à la foi ou mettre en danger, de quelque manière que ce soit, le salut des âmes. Dans ce texte, Pie IX donc met en rapport le rôle de garder le dépôt et le rôle de rejeter et éliminer ce qui met en danger la foi et le salut. Autrement dit, il dit en bref, il n'y a pas possibilité de garder le dépôt sans lutter contre les erreurs. C'est ce que ces conciles que je vous ai cités ont fait. Le concile de Nicée a gardé le dépôt, la Sainte Trinité, l'égalité des trois personnes divines, contre l'erreur de l'arianisme, qui prétendait que la deuxième personne divine était inférieure à la première, que le Fils est inférieur au Père. Voyez comment le concile de Nicée a gardé le dépôt en condamnant l'erreur arienne. Et même le concile de Florence a gardé le dépôt en réconciliant finalement les Grecs schismatiques, en les faisant redevenir catholiques, donc en condamnant leurs erreurs. Et le concile de Trente, eh bien, va garder le dépôt en condamnant les erreurs des protestants. Et le concile de Vatican I gardera le dépôt en condamnant les erreurs bien de ceux qui méprisent la divine révélation ou qui exaltent le progrès scientifique, etc. Le même dépôt a cette admirable capacité de s'appliquer à toutes les difficultés de chaque époque pour aider les âmes à se sauver. Ici, il y a ce lien donc, de la fidélité au dépôt avec la lutte contre les erreurs. Autrement dit, pas de transmission fidèle sans combat. Nous voyons ça dans ces conciles, nous voyons ça dans ce texte du pape Pie IX. Cette merveilleuse faculté d'application de la tradition est en fait le plus souvent une admirable capacité de condamner. Évidemment, ce n'est pas à la mode, je suis d'accord. Ça va choquer peut-être l'un ou l'autre d'entre vous. Mais c'est comme ça, c'est l'histoire de l'Église. Donc, cher professeur, ne pas dire le contraire. C'est clair, c'est l'histoire de l'Église. L'Église, la tradition a cette admirable faculté d'éliminer ou de rejeter ce qui s'oppose à elle. Voilà. Comme la lumière, eh bien, dissipe les ténèbres. On ne peut pas s'empêcher de le faire. Alors Vatican II, bien sûr, a voulu faire autrement. Jean 23, dans son discours d'ouverture, a dit « On ne condamnera plus. On va simplement exposer la doctrine, mais on ne condamnera plus. » Et puis, Paul VI, il n'est pas saint, Paul VI disait un jour à Monseigneur Lefebvre « Comment vous voudriez en dire qu'on condamne ? Mais l'Église ne peut pas sans cesse condamner, parce qu'elle va paraître une marâtre. » Voilà ce que disait Paul VI à Monseigneur Lefebvre. L'Église ne veut pas sans cesse condamner, parce qu'elle va paraître une marâtre, c'est-à-dire une mauvaise mère. Mais non, au contraire, c'est une bonne mère qui châtie ses ennemis, eh oui, qui aime bien, châtie bien. L'Église sait ce qu'elle fait quand elle condamne, quand elle châtie les mauvais catholiques, les hérétiques, ceux qui abandonnent la foi. L'Église ne peut pas se renier. Les principes sont vivants dans la mesure où ils s'appliquent, et ils s'appliquent, qu'est-ce que vous voulez, dans la mesure, eh bien, où ils condamnent. Eh oui, où ils condamnent les erreurs. C'est l'histoire de l'Église qui est maîtresse de vérité. Donc l'Église, qu'est-ce qu'elle fait quand elle condamne ? Elle tire de son trésor, bien sûr. Le trésor immuable qui est positif, des principes, des vérités qui condamnent les erreurs. Voilà. Soit directement la condamnation d'une erreur, comme au Concile de Trente condamnant les protestants, soit la définition d'une nouvelle définition dogmatique qui, bien sûr, condamne l'erreur opposée. Par exemple, quand le Concile de Trente définit que la messe est un vrai et propre sacrifice, bien, elle enseigne positivement la vérité et ensuite elle va condamner. Si quelqu'un dit que la messe n'est pas un vrai et propre sacrifice, qu'il soit anathème, elle condamne. Vous voyez, il n'y a pas de définition sans condamnation de l'erreur opposée. C'est ce que fait habituellement le magistère de l'Église. Même dans la définition de Pie XII, de l'Assomption, un cher professeur qui va nous expliquer, c'est M. l'abbé qui va nous expliquer ça, à la fin de la bulle de Pie XII, ben, il y a une condamnation. On dirait, ça y est, l'Église est une marâtre. Mais non, il a raison. Il faut bien montrer que c'est de foi, il faut condamner l'erreur comme hérétique. C'est comme ça. Alors avec Vatican II, on a voulu ne plus condamner, mais on s'expose à trahir. Qui veut garder la foi sans combat, s'expose à la perdre. Qui veut garder la foi sans combat, c'est ce que Jean 23 a voulu faire. S'expose à la perdre, c'est ce qui s'est passé après lui. Donc l'Église applique sa tradition d'une façon pugnace, combattante. Et c'est normal. Parce que nous sommes dans un monde, évidemment, avec le péché originel, marqué par le péché originel. Donc il faut lutter. Donc tradition immuable, vivante parce que nous en vivons, vivante également parce qu'elle s'applique à chaque problème de chaque époque, en condamnant les erreurs. Maintenant, voyons dans cette application vitale un certain développement de la tradition, un certain développement de la tradition. En un certain sens, elle se développe de façon homogène, dans le même sens. En effet, sous la conduite du Saint-Esprit, face à l'erreur, la tradition s'applique vitalement et subit par le fait même un certain développement de sa doctrine. De quelle manière se fait ce développement? Il ne s'agit pas d'une évolution, d'une métamorphose, nullement, il s'agit d'un progrès homogène. En effet, ce n'est pas un progrès en nouveauté. Quand le pape Pie IX a défini l'Immaculée Conception, il n'a pas inventé un nouveau dogme. Il a défini ce que l'on croyait depuis toujours. Il n'y a pas eu de nouveauté. Mais il y a un progrès dans l'explicitation de la doctrine qui a toujours été crue. Voyez. Autrement dit, les hérésies, les erreurs, servent finalement à l'Église. Voyez. Sous la conduite du Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui est le moteur réel de ce progrès doctrinal, mais les erreurs, les hérésies sont, l'aliment de ce progrès. Autrement dit, le démon sert contre lui-même à ce progrès dans l'explicitation ou la précision des dogmes. C'est un progrès en précision, tout d'abord. Chaque nouveau dogme ou chaque proposition nouvellement condamnée apporte une précision à ce qui était cru d'abord de façon plus globale et qui va être cru de façon plus précise. C'est un petit peu comme, si vous voulez, quand on cherche dans la terre les diamants, n'est-ce pas, on ramasse un diamant brut qui n'a pas un bel aspect, on va le porter au lapidaire qui va le tailler pour en faire ressortir la lumière avec les 1000 facettes, les divers angles aux 1000 reflets qui permettent de le contempler. Eh bien, l'Église fait pareil. Ce diamant brut qui est la révélation, elle le taille, elle le détaille, afin qu'on en voie l'éclat. Mais c'est un progrès extérieur, le dépôt reste le même. C'est un progrès dans l'explicitation. Je vous prends un exemple, j'applique si vous voulez, par exemple, l'infaillibilité du pape quand il parle ex cathedra, du haut de la chaire de pierre. Tout le monde a toujours cru que le pape est infaillible quand il parle solennellement. Seulement, Vatican I l'a défini avec précision. Vatican I a donné les 4 conditions par lesquelles l'infaillibilité est garantie. Si le pape parle en tant que pontife suprême, si le pape parle en matière de foi et de mœurs, si le pape ensuite prononce un jugement définitif, et enfin si le pape indique que c'est à croire par tous les fidèles. 4 conditions. On avait toujours cru cela, mais Vatican I précise, explicite. Voilà. Les conditions auxquelles le pape est véritablement infaillible, indubitablement infaillible. Donc ici, il s'agit d'un progrès en explicitation ou en précision. Voilà. C'est ce que nous dit saint Thomas, du reste, saint Thomas d'Aquin, je peux vous donner la citation de saint Thomas dans la Secunda Secundae, question. Première, article 7. Saint Thomas parle de la croissance de la foi au cours de l'Ancien Testament. Il dit bien sûr qu'il y a eu les prophètes qui se sont succédés, Abraham, Isaïe, etc. Donc il y a un progrès dans la foi. Mais il dit, attention, il faut dire, dit-il, quant à la substance des articles de foi, qu'il n'y a pas eu d'augmentation au cours des temps. parce que tout ce que les postérieurs ont cru était contenu dans la foi des pères précédents. Ce que Isaïe a introduit, a enseigné, était déjà contenu dans la foi d'Abraham. Simplement, Isaïe a révélé plus explicitement ce qui était déjà révélé dans la foi d'Abraham. Voyez. Ce que les postérieurs ont cru était déjà contenu implicitement dans la foi des premiers. Ça, c'est pour l'Ancien Testament. Eh bien, le Nouveau Testament, il n'y a pas de nouvelle révélation, mais il y a une nouvelle proposition par l'Église. Et donc, on peut appliquer à cela en disant ce qui est donc explicitement exposé par le magistère d'Église aujourd'hui était déjà implicitement proposé par le magistère antérieur. Il n'y a pas de changement, il y a seulement un progrès dans l'explicitation. C'est ce qu'on peut dire, si vous voulez, en appliquant ce que dit saint Thomas à l'Ancien Testament, où il y a réellement un progrès dans la révélation, puisqu'il y a de nouveaux prophètes, mais il n'y a pas de réel progrès dans la foi. Nous pouvons dire ainsi, dans l'Ancien Testament, c'est la révélation elle-même qui passe de l'implicite à l'explicite. Abraham, Isaïe, par exemple. Abraham croit au Messie futur. Isaïe enseigne le Messie souffrant qui va nous sauver par sa passion. Mais tout cela était implicitement cru dans la foi d'Abraham. Donc vous voyez, l'Ancien Testament, il y a un progrès dans la révélation qui passe de l'implicite à l'explicite. Dans le Nouveau Testament, après la mort du dernier apôtre, il n'y a plus de progrès dans la révélation. Mais il y a un progrès dans la proposition par l'Église, qui passe, elle aussi, de l'implicite à l'explicite. Voilà. Par exemple, je vous donnerai tout à l'heure l'exemple du Concile de Trente, à propos de la transsubstantiation. Dans le Nouveau Testament, après la fin de la révélation, c'est la proposition par l'Église qui passe de l'implicite à l'explicite. Ce qui était enseigné d'abord globalement par l'Église devient enseigné précisément, mais la foi reste la même. La tradition n'a pas changé, elle a simplement subi un progrès dans la précision. Et c'est un progrès homogène, dans le même sens. Il n'y a pas de mutation, il n'y a pas de rupture. Un peu comme l'exemple que je prends, si vous voulez, du bourgeon. Le bourgeon qui se développe au printemps. Bon. Dans le bourgeon, il y a toute la feuille, il y a tout le rameau qui est simplement un peu fripé, hein, et qui va se développer tout naturellement. C'est le même être vivant qui se développe. Il n'y a pas de métamorphose, c'est le même être vivant. Il y a un progrès homogène. Eh bien, tel est le progrès de la tradition au cours des siècles. C'est un progrès homogène, un développement, comme la floraison de la fleur et de la feuille à partir du bourgeon. Au cours de ce développement, certaines vérités passent de l'état global à l'état précis et atteignent un certain sommet de précision insurpassable. Exemple, c'est l'exemple que je vais vous donner maintenant, la transsubstantiation, c'est-à-dire le changement merveilleux au cours de la messe des saintes espèces, pardon, plutôt du pain et du vin, dans le corps et le sang de Jésus-Christ. Au Concile de Trente, on a atteint la précision parfaite. Et cependant, déjà le Concile de Florence avait défini cette admirable conversio, cette conversion du pain dans le corps de Christ et du vin dans le sang du Christ. Le Concile de Florence prend le mot conversio. Conversio veut dire changement. Changement, et pourtant ce n'était pas parfaitement ciselé. Voyez, changement. De quoi s'agit-il exactement? Et c'est pourquoi, à l'occasion des erreurs de Luther, le Concile de Trente va utiliser un mot plus parfait, plus précis, le mot « transsubstantiation ». Il explique, en effet, qu'au cours de la messe, par les paroles de la consécration, eh bien, c'est la substance, seulement la substance du pain qui est transformée dans le corps du Christ, mais que restent les accidents du pain, c'est-à-dire les espèces, les apparences extérieures du pain restent. Seule la substance est changée dans le corps du Christ. Voilà la clé que Luther avait refusée. La substance est bien changée, ce n'est plus du pain, c'est le corps du Christ, mais les apparences, ce qu'on appelle philosophiquement les accidents, restent la couleur, la consistance, la saveur, et même, je dirais, la structure chimique. C'est comme cela. C'est ce qu'on appelle les accidents. Et pourtant, la substance est changée. Quel mystère, voyez. Et ce que nous croyons. Voilà. Donc il y a un progrès, grâce au Concile de Trente, dans l'explicitation du dogme. Le dogme avait toujours été cru, mais de façon moins parfaite, moins précise. Et donc ainsi, ce dogme de la messe, ici la transsubstantiation, atteint un sommet doctrinal que nul ne pourra dépasser désormais, à tel point que ceux qui voudront le dépasser tomberont de l'autre côté, dans l'abîme de l'erreur, tel Schilbex, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu, lui, découvrir la transfinalisation. Transfinalisation. C'est-à-dire le pain reste du pain, ou transsignification, c'est pareil. Le pain reste du pain, mais sa signification change. Le pain signifie le corps du Christ. Voilà. C'est ce qu'il a inventé. C'est pas très fort, vous voyez. Il n'y a pas de grand progrès depuis Luther dans l'erreur. Et pourtant, il tombe peut-être plus bas, parce que Luther croyait encore à la présence réelle. Luther croyait à la présence réelle, mais c'était la consubstantiation. Le corps du Christ vient dans le pain, disait-il, ce qui est évidemment abominable, pas admettre ça. Mais au moins, il croyait quand même que le corps du Christ était là. Et les luthériens croient encore. Bien sûr, ils n'ont pas les saints ordres, ils n'ont pas de prêtres, ils n'ont pas de maison. Voyez. Mais ils croient encore, bon. Alors, Schilbex, lui, tombe dans une erreur plus grave. Pourquoi? Parce qu'il a voulu surmonter un sommet de perfection. Voilà. Récapitulons, bien chers amis. La tradition subit un progrès dans cette application vitale, aux nécessités des époques, non pas dans son objet, mais dans son explicitation, tout simplement. La même foi n'est pas connue plus profondément, parfaitement, parce que nul ne peut dépasser la science des apôtres, la foi des apôtres, ces colonnes qui ont reçu, qui ont été instruits, plénissimés, comme dit saint Thomas, de la doctrine de la foi. Mais nous avons cet avantage un petit peu bien accidentel, bien secondaire sur les apôtres, que nous connaissons la foi avec plus de précision et d'explicitation. Mais il est clair que Saint-Pierre et Saint-Paul et tous les apôtres connaissaient la foi avec une plus grande profondeur que nous. Donc c'est un progrès qu'il ne faut pas mépriser, mais qu'il faut relativiser. C'est pourquoi nous pouvons dire avec Saint-Vincent de Lérins, dans son « Com monitorium », vous connaissez ce texte qui est antique, quelqu'un dira peut-être « N'y a-t-il pas donc dans l'Église aucun progrès ?» Si, il y en a assurément. Un progrès dans la religion. Il y a en vérité un progrès dans la foi, mais pas un changement. Saint Vincent de Lérins. C'est incroyablement moderne ce qu'il nous dit. Il y a un progrès, mais pas un changement. Saint Vincent de Lérins, je ne me souviens plus à quelle époque il vivait. 5e siècle. Vous vous rendez compte? Il précise, il y a un progrès lorsqu'une chose en elle-même est amplifiée, c'est sa parole, amplificata. Elle est gonflée, elle paraît plus claire, mais c'est la même, comme le ballon. Vous gonflez, c'est plus clair, mais c'est la même chose. Il y a un progrès quand une chose en elle-même est amplifiée. Il y a une permutation, dit Saint-Vincent de Lérins, nous dirions une mutation, lorsque quelque chose est transmué en autre chose. C'est ce que pensent les modernistes. La foi doit être transmuée en autre chose. Et il conclut, c'est pourquoi doivent croître puissamment la connaissance, la science, la sagesse, tant de chacun que de tous, tant de l'homme individuel que de l'Église, selon la marche des temps et des âges, mais uniquement en son genre, in suo genere, c'est-à-dire dans le même dogme, dans le même sens, dans la même signification. Iodem dogmate, iodem sensu, iademque sententia. Voilà. Continuité de la tradition dans cette application vivante lorsqu'elle condamne les erreurs. Continuité de la tradition catholique. Développement homogène. Si vous avez un peu de patience, passons à la deuxième partie de l'exposé. Voyons maintenant le concept moderniste de la tradition vivante. Qu'est-ce qu'ils appellent, eux, la tradition vivante? Et au nom de cette conception, ils nous condamnent. Ils me traitent de schismatique, n'oublions pas. Donc c'est quelque chose de très important pour nous. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ce concept de la tradition vivante néo-moderniste? C'est un concept évolutif. La tradition est vivante parce qu'elle évolue. Et elle ne serait pas vivante si elle n'évoluait pas. Et vous, comme je vous le disais, il nous traite de fossiles vivants. Chers amis, vous êtes un fossile vivant. Si vous n'êtes pas persuadé, sachez qu'il vous traite ainsi. Eh bien non, nous ne sommes pas fossiles vivants, c'est le contraire. Comment conçoivent-ils le progrès de la tradition? Ce qu'ils appellent l'évolution de la tradition. Par un double processus qui n'est pas connu habituellement. Et je vais vous révéler. Premier processus, processus d'assimilation d'éléments étrangers au dépôt révélé. Voilà, on va ajouter de l'extérieur des éléments étrangers au dépôt révélé pour le faire évoluer, pour le perfectionner. C'est ce qu'on appelle le processus d'assimilation-évolution. Premier processus. Deuxième processus, encore moins connu, c'est un processus de régression de l'explicite à l'ambigu. Je ne dis pas à l'implicite. Un processus de régression. Vous vous souvenez de l'ouvrage de Georges Sallet, l'évolution régressive. Bon, eh bien c'est ça appliqué au dogme. C'est ce qu'on constate depuis Vatican II. Un processus de régression de l'explicite à l'ambigu. Ou encore, si vous voulez, du clair à l'équivoque. La nouvelle messe. Voilà. Passage de la messe de toujours, la messe traditionnelle, à la messe nouvelle. Processus de régression de l'explicite à l'ambigu. Et ils appellent ça un progrès. Évolution. Ils appellent ça la tradition vivante. Vous voyez la catastrophe que ça a produit depuis 30 ans. Je ne vous parlerai pas du deuxième processus, qui est plutôt ridicule qu'autre chose, processus de régression, mais je vous parlerai du premier processus, qui est plus fondamental, donc progrès, soi-disant, par assimilation au dépôt révélé d'éléments étrangers. Parlons de ce premier processus. Le Concile Vatican II le déclare lui-même dans Gaudium et Spes numéro 11. Vous pourrez aller voir, vérifier, c'est une référence précise. Je vous cite, « Le Concile se propose avant tout, c'est important, ça veut dire le premier but du Concile. Ils se sont réunis pour cela, d'abord, avant tout. Au moins, c'est le 23. Monseigneur Lefebvre n'a pas voulu faire cela. La plupart ne voulaient pas cela. Mais c'est comme ça. Le Concile se propose avant tout de juger à la lumière de la foi les valeurs les plus prisées par nos contemporains et de les relier à leur source divine. En effet, ces valeurs de nos contemporains, dans la mesure où elles procèdent du génie humain, qui est un don de Dieu, sont fort bonnes. Mais il n'est pas rare que la corruption du cœur humain les détourne de l'ordre requis. C'est pourquoi ils ont besoin d'être purifiés. Fin de citation. J'estime que vous avez là la chose la plus grave, la plus fondamentale du Concile. Et Mgr Lefebvre l'a souligné in illo tempore. Numéro 11 de Guardium et Spes, donc le décret sur ce qu'on appelait en ce temps-là le schéma 13, qui est venu Guardium et Spes, c'est-à-dire les relations entre l'Église et le monde de ce temps. Je vous relis cette citation fondamentale à mon avis. Premier but du Concile, il se propose avant tout de juger à la lumière de la foi, on dirait très bien. Quoi donc ? Les valeurs les plus prisées par nos contemporains. Bon, c'est-à-dire quoi ? Bien, liberté, égalité, fraternité, démocratie, etc. Bon, alors, on va les juger enfin à la lumière de la foi, comme si les papes n'avaient pas déjà jugé, comme si Pie VI n'avait pas déjà jugé ces choses-là. Bien. Pourquoi ? On va les juger à la lumière de la foi, ces valeurs les plus prisées par nos contemporains, et les relier à leur source divine. Ah ben, le jugement est rapide, alors. Déjà, on les relie à leur source divine. Alors, c'est tout bon. C'est relié à sa source divine. Vous voyez ? Liberté, égalité, fraternité, ah, c'est déjà divin. Je lis ça. Le jugement est déjà tout fait. C'est pas la justice, ça, messieurs les juristes. Qu'en pensez-vous ? Il n'y a pas de jugement, c'est déjà tout fait. Il n'y a pas eu de plaidoirie. Et ensuite, on continue. Donc les relier, ces valeurs, à leur source divine. En effet, ces valeurs, dans la mesure où elles procèdent du génie humain, qui est un don de Dieu, sont fort bonnes. Voilà, ça y est. Ça procède du génie humain, qui est un don de Dieu, donc elles sont bonnes. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. C'est tout, c'est rapide. Hein. Mais, quand même, il n'est pas rare que la corruption du cœur humain les détourne de l'ordre requis. C'est pourquoi ils ont besoin d'être purifiés. Donc liberté, égalité, fraternité, droit de l'homme, c'est bon, mais il faudra quand même les purifier. Et à ce prix, on pourra les introduire dans la doctrine de l'Église, dans le dépôt de la foi. C'est ça. Les relier à leur source divine. Montrer qu'elles peuvent très bien entrer dans le dépôt de la révélation. C'est cela. Donc il s'agit, bien chers amis, d'une assimilation à la tradition catholique, d'éléments douteux, étrangers à la révélation, de valeurs profanes. Un tel mélange est un mélange aliénant. C'est une exécration profanatrice du dépôt de la foi. C'est une entreprise condamnée à mort. On ne peut pas, en effet, introduire des inventions profanes de la raison humaine, comme nous avons dit avec Pie IX, vous vous souvenez ? Pour faire progresser la religion. Et pourtant, c'est ce que nous dit le Concile. Vous me direz, j'interprète, c'est un peu tiré par les cheveux quand même, parce que là, on ne voit pas le dépôt de la foi, on ne voit pas l'assimilation. On voit, certes, qu'il s'agit de relier ces valeurs à leur source divine. Bien, eh bien, voilà l'interprétation de ce texte du Gaudium et Spes numéro 11 par le cardinal Ratzinger, maintenant. Un texte du cardinal Ratzinger. On ne peut pas dire c'est le chef de la foi. Bon. Qu'est-ce qu'il dit ? Le problème des années 60, c'était au moment du Concile donc, était d'acquérir les valeurs les mieux exprimées de deux siècles de culture libérale. D'acquérir pour l'Église. C'est bien cela. Donc d'assimiler dans le dépôt révélé des valeurs les mieux exprimées de deux siècles de culture libérale. Qu'est-ce qu'on sait deux siècles ? 19e et 20e siècle. Voilà. Donc les erreurs condamnées par les papes, tous ces papes, de Grégoire XVI à Pie XII, tout simplement. Grégoire XVI, Pie IX, Léon XIII, Saint Pie X, Benoît XV, Pie XI, Pie XII, tous ces papes. Et avant Grégoire XVI, Pie VI, Pie VII, qui ont les premiers condamnés les principes de la Révolution. Les droits de l'homme. Non, dit Ratzinger, le problème, c'est justement de les acquérir, ces valeurs. Vous voyez ? Ces valeurs les mieux exprimées, pas toutes, mais celles qui étaient le mieux exprimées, par ces deux siècles de culture libérale. Il dit pourquoi? En effet, ce sont des valeurs qui, bien que nées hors de l'Église, peuvent trouver leur place, purifiées et corrigées, dans sa vision du monde, dans la vision de l'Église. Elles peuvent trouver leur place dans la vision que l'Église a du monde, pourvu qu'on les purifie un petit peu et qu'on les corrige. Donc les principes de la Révolution, purifiés et corrigés, trouvent leur place dans la tradition. Voilà. Ratzinger dixit. Il explique honnêtement le dessein du Concile. Il est honnête. Il ne nous cache rien. Il est progressiste. C'est affreux, dites. C'est arracher les cheveux. Mais il est honnête. Il ne trompe pas. Il dit même plus précisément ce que le Concile disait moins précisément. Il s'agit bien donc d'acquérir ces valeurs révolutionnaires pour les mettre de force, les fourrer de force dans le dépôt révélé. Attention, on va les corriger un peu avant. Parce que, pourquoi, on ne sait pas. Des valeurs de deux siècles de culture libérale. Bouillon de culture. Bon. Eh bien, j'estime, bien chers amis, qu'une telle opération ne peut pas être couverte par l'assistance du Saint-Esprit. C'est bien le moins. L'Esprit Saint ne peut pas assister une telle chose. En effet, nous dit, je vous ai cité, Vatican I, l'assistance du Saint-Esprit n'a pas été promise à Pierre et à ses successeurs pour qu'ils inventent une nouvelle doctrine par sa révélation, mais pour simplement qu'ils gardent saintement et transmettent fidèlement le dépôt de la foi. Bon, alors, il ne s'agit pas d'introduire des nouvelles doctrines dans le dépôt de la foi. Il s'agit de conserver et de transmettre fidèlement. Donc l'Esprit Saint n'a pas pu assister une telle opération. Eh bien, c'est grave de dire cela. J'en suis conscient. Voyez. Ça veut dire que si l'Esprit Saint n'a pas assisté le Concile dans le dessein primordial du Concile, il y a de fortes chances pour qu'il y ait peu de choses infaillibles dans le Concile. Quand on dit Concile nous dit, Gaudium et Spes numéro 11, c'est le premier but du Concile. Il se propose avant tout de faire cela. Si l'Esprit Saint ne veut pas, s'il n'a pas voulu, ce n'est pas possible, assister à une telle opération, eh bien c'est qu'il n'y a rien d'infaillible dans ce que ce Concile nous dit. Au moins dans ce qu'il a essentiel, dans le but essentiel du Concile. Introduire de force des éléments étrangers dans la doctrine catholique, cela ne peut pas être couvert par le Saint-Esprit, cela répugne au Saint-Esprit. C'est contre le Saint-Esprit. C'est un péché contre le Saint-Esprit. C'est une résistance. Or, bien chers fidèles, j'ai fait des découvertes pour vous. Je vous donne le fruit de mes découvertes historiques. Les historiens parmi vous ne pourront pas nier ces choses-là. Je vais vous donner des références. En effet, le cardinal Congar, qui fut nommé cardinal après, mais qui en ce temps-là était simple théologien, écrivait déjà en 1950, 12 ans avant le Concile. C'était un prophète avant le Concile. Qu'est-ce qu'il écrivait? Je vous cite. « Les progressistes du XIXe siècle l'amenaient, par exemple. » C'est moi qui dis « l'amenaient », mais il dit « l'amenaient ». Donc les progressistes du XIXe siècle ont alors trop pris tel quel pour les introduire en christianisme, et ainsi pensaient-ils les baptiser, des idées nées dans un autre monde, souvent hostile et encore chargé d'un autre esprit. Réconcilier l'Église avec un certain monde moderne ne pouvait pas se faire en introduisant tel quel dans l'Église les idées de ce monde moderne. Cela supposait un travail en profondeur par lequel les principes permanents du catholicisme prissent un développement nouveau en assimilant, après les avoir décantés et purifiés, les apports valables de ce monde moderne. Mais le Concile a cité Congar. Gaudium et Spes numéro 11, c'est une citation de Congar. Vous trouvez la source ici, dans son livre « Vraie et fausse réforme dans l'Église », édition du Cerf, 1950, page 345-346. pour aller voir la, la... C'est incroyable, quand j'ai découvert ça, j'étais heureux, pensez, j'ai découvert la source du concile. Ils n'ont pas mis ça dans le concile. Dans les sources du concile, vous notez pas qu'on garde page tant, non. Mais c'est là. Autrement dit, qu'on garde dit, ils se sont tous trompés, Lamennais et compagnie. Ils ont voulu introduire la les principes de la révolution dans la doctrine de l'Église. C'était un bon désir, mais ils se sont mal pris. Moi, Congar, je vais vous montrer comment il faut faire. Il suffit de purifier un peu ces principes, et ensuite on va les y mettre. Voilà. Moi, Congar, je vais vous montrer comment on va faire. C'est ça qu'il dit. Hein? Lamennais avait une bonne idée, il fallait bien introduire les principes de la révolution, mais c'était un esprit hostile. Bon, alors il fallait, on ne pouvait pas introduire telles quelles les idées de ce monde moderne, spécialement la liberté des cultes. Liberté des cultes, ça c'est choquant, évidemment. Non, on va purifier ça, on va dire liberté religieuse. Voilà, et ça passe. Et c'est assimilé. Et pourtant c'est la même chose. C'est ce qu'ils ont fait. Donc cette phrase vaut son pesant d'or, parce que justement, elle va être produite par Gaudium et Spes numéro 11. Certes, ça supposait un travail en profondeur, oui, mais un travail ténébreux. Et donc vous voyez, c'est bien cela, c'est un processus de développement de la doctrine, ils le prétendent, par assimilation des idées libérales. Et ils prétendent apporter un certain progrès. C'est ce que dit Congar. Cela supposait un travail en profondeur par lequel les principes permanents du catholicisme prirent un développement nouveau. Vous vous rendez compte, quel orgueil! Les principes permanents du catholicisme prennent un développement nouveau. Parce que moi, Congar, je vais introduire, comme il faut, les principes libéraux. Voyez un peu ce qu'il écrivait en 1950, et c'est pour ça qu'il fut condamné. Il a été condamné. Mais Jean XXIII l'a repris comme expert au Concile, malheureusement. Il était condamné, et c'était juste. On doit condamner, comme l'Église l'a fait avec Pie XII, cette fausse idée d'assimilation des idées libérales, des idées étrangères à l'Église, pour donner soi-disant un progrès à la doctrine de l'Église. C'est choquant, c'est scandaleux, c'est une erreur. Or, j'ai fait une nouvelle découverte. Je sais que Congar n'est pas resté tout seul à enseigner cette erreur. Vous avez aussi Roger Aubert, l'abbé Roger Aubert de Louvain, belge, historien, je ne sais pas s'il est belge, mais enfin c'est à Louvain, en Belgique, historien ecclésiastique qui a beaucoup écrit sur le siècle de Pie IX. En principe, en particulier le livre dans la collection de Fichet Martin sur le siècle de Pie IX. Que nous dit Roger Aubert ? Il dit ceci, la même chose, en 1950, la même année que Congar. Les collaborateurs de l'Évangile, de l'Avenir, le journal L'Avenir qui était le journal de Lamennais, les collaborateurs de l'Avenir n'avaient pas pris suffisamment soin de repenser les principes qui permettraient, moyennant les discernements et les purifications nécessaires, d'assimiler au christianisme des idées de démocratie et de liberté qui, né hors de l'Église, s'était développé dans un esprit hostile à celle-ci. Intéressant, ça. Donc, vous voyez, il y précise de quelles idées il s'agit. Démocratie et liberté. Ce que les papes ont condamné, en particulier Léon XIII. Bon. Ces idées de démocratie et de liberté, il dit bien, elles sont nées hors de l'Église. Et même, elles se sont développées dans un esprit hostile à l'Église. Mais voilà. Le malheur, c'est qu'on n'a pas pris assez le soin de repenser les principes qui permettraient de les introduire dans l'Église. Lamennais n'a pas pensé suffisamment à cette purification, il dit bien, hein, discernement et purification nécessaires pour introduire ces idées fausses dans l'Église. Ils ne sont pas les seuls, donc j'ai cité Congar, l'abbé Aubert, et enfin, il y a quelques années, le père Bernard Sesboué, jésuite, qui écrit ceci dans le document Épiscopat, bulletin du secrétariat de la Conférence épiscopale française en 1986, numéro 15. Donc, il y a 12 ans déjà. c'est quand même vieux. Enfin voilà, ce qu'il disait Bernard Susbué. Le drame, aïe, qu'est-ce que c'est que ça? Le drame de ces déclarations pontificales, donc, il parle du syllabus, quand Pie IX a condamné toutes ces erreurs libérales. Hein. Le drame de ces déclarations pontificales, c'est qu'elle n'ait pas discerné l'élément de vérité chrétienne qui se cachait dans des revendications qui se présentaient à la fois comme des attaques contre la religion et comme une révolte vis-à-vis des droits de Dieu. Il y avait quand même, dit-il, des éléments de vérité chrétienne là-dedans. Et les papes n'ont pas assez discerné les éléments de vérité chrétienne qu'il y avait dans la Révolution. C'est le drame. Et ainsi, dit-il, fut boudé pendant un long siècle l'idéal signifié par les droits de l'homme. Parce qu'on n'y réussissait pas à y reconnaître le lointain héritage de l'Évangile. Donc le drame, dit-il, c'est qu'on ait boudé les droits de l'homme parce qu'on ne réussissait pas à y reconnaître le lointain héritage de l'Évangile. Vous vous souvenez donc ce que Saint Pie X a dit dans sa lettre sur le sillon. C'est pas qu'on dit, quand il montre que cet essai de réconciliation entre l'Église et la Révolution est un scandale. Donc les papes, dit-il, Zesboué, ont manqué de discernement. Eh bien non, bien chers fidèles, chers amis, non. Au contraire, les papes ont discerné, ils ont réfléchi. Et ils ont condamné sans merci ces erreurs libérales. Ils les ont rejetées. Et ils ont fait leur travail. Ils ont transmis la foi intégrale, la tradition, parce qu'ils ont condamné les erreurs libérales. Et nous devons les remercier d'avoir fait leur travail. Voilà. Et ainsi, je n'arrive à ma conclusion. Bien, chers fidèles, elle est toute simple. À l'exemple de ces papes, Pie IX, particulier, puisqu'il est très actuel, son procès de canonisation était tout prêt, il est arrêté. Et on sait bien pourquoi, évidemment. C'est pas la peine de commencer son procès, évidemment. Pourquoi? Parce qu'il a condamné ses erreurs libérales et qu'il n'a pas permis qu'elles soient assimilées par l'Église. Il a empêché ce dessein sacrilège que Vatican II a voulu reprendre, hélas, comme je vous l'ai montré. Eh bien, ces papes ont su transmettre fidèlement le dépôt révélé parce qu'ils ont condamné les erreurs opposées. Ils ont donc été de vaillants témoins de la tradition vivante parce qu'ils ont d'abord été des combattants. Voilà. Il n'y a pas de transmission fidèle s'il n'y a pas de combat contre l'erreur. Et vous, bien chers amis, bien chères familles chrétiennes, ne vous imaginez pas faire mieux que les autres. Parce que vous êtes soi-disant traditionnaliste, attention. Vous ne ferez pas mieux que les autres si vous ne combattez pas chez vos enfants les dangers qui les menacent. Il n'y a pas de transmission fidèle sans combat. Attention. Moi, je viens au prieuré, tout va bien. Non. Vous savez bien qu'il y a un combat. Vous savez bien. Il n'y a pas de transmission fidèle sans combat contre l'erreur. La tradition n'est vivante que si elle est combattante. C'est pour cela. J'ai essayé de vous montrer cela ce soir, voyez. La tradition est vivante parce qu'elle s'applique à chaque époque, bien sûr, aux difficultés de caractéristiques de chaque époque, et en s'appliquant, elle combat l'erreur. Et c'est à ce prix qu'elle peut subsister, qu'elle peut continuer à vivre, qu'elle peut porter du fruit, qu'elle peut être transmise. Alors, à nous, bien chers amis, de combattre pour pouvoir transmettre. La combativité de la tradition catholique est un des éléments essentiels de sa vitalité. C'est pourquoi nous sommes vraiment la tradition vivante, nous sommes de la tradition vivante, parce que nous combattons. Et on peut dire que ceux qui gardent la messe, sans vouloir combattre la nouvelle messe, eh bien, ils s'exposent un jour ou l'autre, à lâcher la messe. Voilà. Parce qu'ils ne combattent pas l'erreur. Parce qu'on ne peut pas se contenter de garder le dépôt si l'on ne combat pas l'erreur. Il faut savoir mettre le doigt sur la plaie. Donc, sachons condamner les erreurs, montrons à nos jeunes enfants, à la jeune génération, les dangers, les erreurs, pour pouvoir les garder fidèles à la vérité. vous remercie de votre attention.
Oui. Si vous avez une ou deux questions, il est déjà tard, donc vous pouvez toujours poser. Mais je sais qu'après un exposé si brillant, je crois que ce sera difficile de poser des questions.
C'est progrès. Parce que c'est un dogme, vous voyez, c'est défini dogmatiquement. Alors que Florence n'est pas une définition dogmatique, c'est une approche, une première approche. Le Concile de Florence donne un dogme. Donc, on ne peut pas imaginer une perfection supplémentaire, une perfection supérieure. Une fois qu'une définition dogmatique est introduite, elle est définitive. Elle apporte un sommet de perfection. Oui. C'est probablement l'explicitation de ce qu'on croyait toujours, de manière plus globale, moins explicite. Oui. Ça, c'est une question qui peut rester disputée pour l'instant, tant que nous n'avons pas étudié d'une manière précise les documents, mais ça ne touche pas spécialement le problème. Oui. L'essentiel, c'est que Mgr Lefebvre ait été le champion pour lutter contre l'erreur de la liberté religieuse. Savoir s'il a signé ou pas ce document, bien sûr, c'est une question, mais ce sera intéressant, mais enfin, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de montrer qu'il a combattu avant et qu'il a combattu après. Qu'il ait signé sur le moment, c'est une question qui peut intéresser les historiens, mais qui n'est pas déterminante pour notre combat. Jan Ratzinger, c'était son livre, son interview au mensuel Jésus, n'est-ce pas, en Italie, à Vittorio Messori, n'est-ce pas, ce journaliste italien, Vittorio Messori. Et il a publié ça ensuite, mais en édulcorant la chose, dans son livre, Une enquête sur la foi, ce titre, Enquête sur la foi aux éditions du Cerf, je suppose. Mais sachez qu'il a édulcoré son texte, et que c'est le texte original italien qui fait foi. Le bon Dieu a révélé une seule religion, il n'a pas révélé 36, c'est pas possible. Dieu ne veut pas se contredire, voyez. Donc Dieu ayant révélé la vraie religion dans l'Ancien Testament à Abraham et à Moïse, etc., et dans le Nouveau Testament par notre Seigneur Jésus-Christ son Fils, il n'y a pas d'autres religions révélées sur la terre. Et donc les autres religions sont des inventions humaines ou des déformations humaines de la religion primitive, mais spécialement des inventions humaines. Et dès lors, il n'est pas juste de laisser publiquement professer des choses qui ne sont pas admises par le bon Dieu. Voilà. Dans certains cas, on peut les tolérer, mais n'ont aucun droit en soi, en elles-mêmes, à se publier extérieurement, parce qu'elles sont des erreurs. Parce qu'il n'y a qu'une seule vraie religion. Eh bien, ce n'est pas la Sainte Vierge qui a parlé à ce moment-là. C'est le minimum que je puisse dire. Oui. La Sainte Vierge ne peut pas contredire notre Seigneur qui a dit « Je suis la vérité ».
Monsieur, vous posez une question, là, je crois.
Oui.
Vous dites qu'il faut combattre le modernisme.
Oui, oui.
Alors, que faire pour...
Ah ben, si ça vous intéresse, on peut montrer justement que le modernisme a un langage élastique. Et donc c'est un argument ad hominem pour lui montrer qu'il se contredit lui-même, qu'il n'est pas consistant en lui-même. Oui.
Bon.
C'est ça, oui. Dieu n'abandonne pas les âmes, mais Dieu n'aime pas les erreurs.
Nous allons finir par une prière.